le voulez bien, et lire ensemble dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 45. Le livre du prophète Jérémie, le chapitre 45, et il n'est pas très long ce chapitre, on va le lire dans sa totalité. La parole que Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Nerija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles, sous la dictée de Jérémie, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, « Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. » Dis-lui, « Ainsi parle l'Éternel. Voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays, et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. » Amen. Et puis dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, ces merveilleuses paroles de Jésus, Jean chapitre 10, les versets 11 et 12, et même à partir du verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Retenons en particulier pour ce soir, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Nous avons lu en premier texte ce chapitre 45 de tout ce long livre du prophète Jérémie. Et si vous lisez les chapitres qui précèdent et les chapitres qui suivent, vous constaterez que c'est une succession d'événements négatifs, douloureux, violents, que Dieu annonce. C'est effarant, c'est quelque chose qui communique même des émotions d'anxiété, c'est le journal télévisé des choses à venir, pas celles qui sont passées. Dieu annonce ce qui va arriver, les événements, les prophéties, les signes. Et on ne va pas lire, bien sûr, tous ces chapitres, mais quel film d'horreur! Il est question dans ces annonces de phénomènes naturels, sécheresse, famine, de phénomènes moraux, corruption, impénitence, des événements de destruction, une confusion dans le domaine du spirituel, des faux prophètes, il y a des jugements sévères, il y a des événements géopolitiques impressionnants. Dieu annonce ces choses. C'est le Dieu souverain. Il annonce, il informe d'avance, il avertit, et les choses se passaient de la manière suivante. Jérémie recevait la révélation de ces choses et il les dictait à son secrétaire, appelé Baruch. Baruch était à la disposition de son maître, du prophète Jérémie, et brusquement Jérémie recevait une révélation et il la dictait à Baruch, qui était entièrement dédié à la rédaction de tous ces événements forts, angoissants. Et à un moment donné, Dieu, de son trône, qui voit tout et qui voit notamment le secret dans le cœur de chacun, remarque que Baruch, le secrétaire du prophète, se trouve intérieurement dans un état de détresse. Alors il y a ce chapitre 45, court, mais qui est comme une césure dans ce film annonciateur d'événements très difficiles. Dieu stoppe et il insère le chapitre 45 qui est dédié personnellement à Baruch, parce que Dieu voit cet homme qui est désemparé. À force d'écrire des événements négatifs, ça inonde son être d'angoisse. Il est complètement bouleversé au point que Dieu le voit en danger. Il fait un arrêt sur image de tout ce film prophétique. Il va le reprendre au chapitre 46. Mais le chapitre 45, Dieu semble se tourner personnellement vers Baruch et lui adresser un message d'encouragement. J'ai intitulé ce message « L'encouragement de Dieu à Baruch ». Mais Baruch, ça peut aussi être toi, ça peut être moi. Parce que si, en ce temps-là, c'était un film d'horreur par anticipation, nous le vivons, ce film, d'une manière effective, factuelle. Nous vivons des temps que l'apôtre Paul qualifie de temps difficiles. Nous vivons ces choses qui ont été annoncées. Nous sommes plongés, je dirais, au quotidien, dans un contexte où le péché a atteint un tel paroxysme que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu pour nous fortifier, pour nous rassurer, pour nous encourager et pour nourrir notre espérance malgré le contexte très difficile, eh bien ni vous ni moi, nous ne résisterions. Mais que Dieu soit béni, Dieu sait adresser un encouragement à la bonne personne et au bon moment. Et je crois que pour au moins une personne, ce soir, c'est le bon moment. Et je crois que c'est le bon moment pour beaucoup plus qu'une personne. Pour chaque personne ici présente, le Seigneur voudrait dire en substance, oui, les temps sont difficiles. Oui, ton quotidien est chargé. Oui, les tentations, les épreuves, les influences que la société exerce sur toi deviennent de plus en plus intenses. Mais ce soir, j'ai une parole à t'adresser qui va t'encourager. Je prie pour que nous tous, vous et moi, nous partions encouragés ce soir. Ce n'est pas la dégradation effarante de la géopolitique qui va empêcher Dieu d'accomplir ses plans et de bénir ses enfants et de les garder vainqueurs, rayonnants, comme on l'a dit dimanche, paisibles, d'une paix qui surpasse toute intelligence. Dieu veut ce soir t'encourager, alléluia! Même si à vue humaine, le combat est disproportionné, tu es peut-être le seul membre croyant dans ta famille, tu es peut-être le seul chrétien, la seule chrétienne dans tout un amphithéâtre d'étudiants, tu es peut-être isolé et à vue humaine, le combat est inégal, mais parce que Dieu est avec toi, alors c'est toi qui vas gagner. C'est ta foi qui va avoir raison de toutes les pressions extérieures, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, Dieu va voir Baruch en très mauvais état. Et il va venir au secours de Baruch. Baruch est découragé. Et on va décortiquer un peu plus en détail l'expression de sa bouche, mais il dit « Malheur à moi !» Car l'Éternel ajoute « Le chagrin à ma douleur, je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. » Il n'est pas en forme. Alors Dieu remet en forme celui qui est prêt de défaillir. Que le Seigneur soit béni. Baruch, on va faire un peu plus connaissance avec lui. Son nom signifie celui qui est béni. Vous savez, la baraka, hein, c'est la même racine, le bonheur, la bénédiction. Baruch, c'est le béni. Le béni dit « malheur à moi ». Il y a une discordance et une dissonance, quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Il est béni et le nom qu'il porte est évocateur de la perspective que Dieu a pour lui. Dieu a pour nous aussi des plans merveilleux, des perspectives merveilleuses. Mon frère, ma sœur, ce que Dieu a établi dans ses desseins parfaits pour ta vie, ce sont un ensemble de programmes divins merveilleux. Dieu veut pour toi un parcours qui va être jalonné d'expériences de miracles, d'expériences qui vont te donner de toucher du doigt à la bonté du Seigneur. Et malgré ce nom annonciateur, révélateur des plans merveilleux pour Baruch, ce dernier parle de malheur. Baruch, c'est le fils de Nerija. Et Nerija signifie la lampe de l'Éternel. Et j'ai envie de dire que la lampe, elle est en train de s'éteindre. Mais merci Seigneur, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Peut-être tu es une lampe en train de menacer de disparaître. Tu en es à un tel point que la luminosité que tu es capable de dégager est tellement fragilisée, menacée, ténue, qu'un peu plus, ça va s'éteindre. Mais Dieu ne le permettra pas. Amen. Dans ton cœur, dis à ton Dieu, « Seigneur, tu ne vas pas permettre que ma lampe s'éteigne. » Mais au contraire, tu vas souffler sur ma lampe et lui redonner un éclat triomphateur qui va être le reflet de ta gloire. Amen. Oui, Baruch, le fils de Nerija, se trouve dans un très profond découragement. Vous savez, frères et sœurs, notre rapport avec nos découragements mérite que nous sachions bien les gérer. Quand tu es découragé, il est important de savoir pourquoi, de définir et de localiser les facteurs de découragement. Pourquoi je suis découragé? Je prends un ou deux exemples. Par exemple, si par une compréhension pas très équilibrée des choses bibliques, je n'obtiens pas un exaucement à ma prière dans l'immédiat, je peux être découragé. Si j'ai calé ma vision spirituelle sur une référence, mais qui n'est pas celle de Dieu, si la chose n'arrive pas, je peux être découragé. Un jour, je parlais du Seigneur à une mamie, qui était en train de venir à nos réunions, et sa petite fille était dans la pièce à côté. Et elle faisait semblant d'être détachée, mais elle écoutait. La preuve, c'est qu'à un moment donné, lorsque je parlais à la mamie de la prière que Dieu entend et se plaît à exaucer. La petite de 18 ans s'est levée comme un ressort, elle est venue vers moi, et elle m'a dit « ça, c'est pas vrai ». Je dis « ah bon ? Et pourquoi ?»« Parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché ». Ah bon ? Explique-moi. Oui, j'ai fait ceci, ceci et cela, etc. Et ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de réponse. Et elle était plus que découragée. Je veux dire que à son découragement se mêlait un petit peu de révolte. Alors on a repris, dès le commencement, le processus. Comment as-tu procédé ? Moi, je vais vous dire, on a tous des portables. Hein ? Souvent, on l'utilise avec Jérémy. Vous avez 10 chiffres. Vous voyez, moi c'est le 06 03 89 97 35. Si vous faites tout ça et au lieu du 35 vous faites 36, c'est presque pareil. C'est presque pareil. Mais vous allez peut-être aboutir à monsieur le préfet ou je sais pas au bout la surprise, hein, mais une petite inexactitude, et c'est la désillusion. On ne touche pas au but espéré. Je crois que lorsque nous invoquons le Seigneur, lorsque nous approchons de lui, nous devons le faire avec l'éclairage biblique, l'instruction biblique, afin que, pardonnez la comparaison, le numéro soit le bon numéro. Pas presque bon, mais le bon numéro. Alors la petite, elle me disait, oui, je suis allé allumer des cierges et j'ai fait un vœu à trois reprises silencieusement, je me suis signé trois fois aussi et ça n'a pas marché. Et oui, mais tu n'as pas fait le bon numéro. La Bible nous enseigne, dans le but que le succès soit toujours au rendez-vous et que l'exaucement de Dieu vienne récompenser la prière de la foi. Il faut savoir d'où viennent les découragements. Je suis persuadé que Marthe et Marie ont été très troublées et très découragées par le fait qu'après avoir envoyé des émissaires faire venir Jésus, Jésus n'est pas venu tout de suite. Parce qu'elle, elle s'était fait un scénario. Elle s'était dit, dès la seconde où Jésus, notre ami, va apprendre que Lazare, son ami, est malade, il va venir immédiatement. Il n'est pas venu immédiatement. Et ils ont été découragés. Et quand Jésus a fini par arriver, elles ne se sont pas privées de lui faire la remarque. Si tu avais été un peu plus réactif, notre frère serait encore vivant. Et Marie fera exactement le même reproche. Sauf que ces deux dames, très sincères, étaient en décalage avec l'intention très précise et très contrôlée du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur sait toujours ce qu'il fait. Amen. L'interjection « oups », ça n'existe pas dans le dictionnaire du ciel. Dieu ne dira jamais « Oups, je me suis trompé d'année. » Dieu sait ce qu'il fait, parfaitement. Il contrôle le temps, il contrôle et même utilise les circonstances. Et c'est intentionnellement que Jésus a attendu qu'un délai de 4 jours passe. Puisque Marthe le lui dit, ça fait 4 jours qu'il est décédé. Que fais-tu, Seigneur, d'aller ordonner qu'on ouvre l'entrée du sépulcre, qu'on roule la pierre? Qu'es-tu en train de faire? Ça fait 4 jours qu'il est décédé. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Je me suis laissé dire qu'il y avait une croyance superstitieuse chez les Juifs de cette époque, selon laquelle, quand quelqu'un mourait, on prétendait que son âme restait pendant 3 jours dans les environs. C'était une superstition, mais très répandue et très ancrée. Et le Seigneur ne voulait pas en intervenant trop vite, nourrir cette hérésie. Il a attendu 4 jours. Comme ça, c'était clair pour tout le monde. Il s'agissait bel et bien d'une résurrection miraculeuse suite à l'ordre de Jésus, Lazare, sort. Et ça a été très clair et incontestable pour toute cette population, que le Seigneur soit béni. Mais ils sont passés par le découragement. Baruch est découragé. Est découragé parce qu'il vit dans une société qui est pesante, qui est troublante, et il est pris dans la spirale du découragement. Le découragement est une spirale destructrice qui va essayer de te tirer vers le bas. On va essayer de voir quelques engrenages de cette spirale terrible. Malheur à moi. Malheur à moi. Il n'était plus capable de concevoir le bonheur, l'épanouissement, la joie, l'enthousiasme. Que Dieu nous garde de perdre l'enthousiasme de la foi, la fraîcheur dans les prières, les élans de nos motivations. Que Dieu nous garde de nous laisser enfermer sous une chape négative qu'on pourrait résumer « malheur à moi ». Peut-être y a-t-il parmi nous quelqu'un qui a fini par se convaincre, qui pense que la bénédiction, c'est pour les autres, mais pas pour lui, pas pour elle. Eh bien, détrompe-toi, c'est aussi pour toi. La spirale du découragement est destructrice. Il ne parle que de son chagrin et de sa douleur. Les paroles, les discours qui sortent de la bouche d'un enfant de Dieu sont très révélateurs de son état intérieur. Jésus s'avance vers 2 disciples, les oreilles pendantes jusqu'à frotter le sable du chemin. Ils sont découragés. Ils ont une mine qui marque 6 heures du soir. Et Jésus leur dit immédiatement, « De quoi vous entretenez-vous pour que vous ayez une telle mine ?» Oui, parce que ce dont nous nous entretenons exerce sur nous-mêmes une influence. Si du matin au soir, ta bouche prononce « ça va pas, ça n'ira pas mieux » et des confessions de défaite, de d'échec, mais ce discours négatif va exercer sur ton âme une influence tellement inconfortable et douloureuse. Le discours de Baruch n'exprime que douleur, chagrin et souffrance, et en plus, il n'hésite pas à en rendre Dieu responsable, puisqu'il dit « l'Éternel ajoute la douleur à mon chagrin ». Quand on est dans la spirale du découragement, eh bien, tout est faussé. Baruch rendait responsable Dieu, alors que l'intention de Dieu était bienveillante et secourable. Et puis, conséquence de cette spirale, je m'épuise en soupirant. Un état d'épuisement. L'épuisement, épuisé, c'est un mot qui pourrait être retranscrit ainsi. Il n'y a plus d'eau dans le puits. Épuisé a comme racine le mot puits. Il n'y a plus d'eau. Le puits est à sec. Est-ce que le puits de quelqu'un serait à sec ce soir? Je m'épuise en soupirant. Ça fait un état de lassitude, d'accablement, de fatigue extrême. Et pour finir, c'est l'apothéose. Je ne trouve point de repos. Cette fameuse paix dont on parlait dimanche matin n'existe plus. Pas de paix, pas de tranquillité, il n'y a pas de stabilité. C'est le terrible engrenage du découragement. Alors Dieu lui parle. Dieu lui parle et dans le message qu'il adresse à Baruch, il y a deux éléments. Deux éléments. Premier élément, Dieu dit en substance à Baruch, écoute, ne te torture pas les méninges, ce que j'ai annoncé, ce que j'ai décidé, les événements que j'ai annoncés arriveront. Ça arrivera. Il y a un courant qui semble un petit peu se répandre dans le milieu de la chrétienté, on peut l'appeler sous le libellé l'évangile du royaume. Ça consiste en quoi? Ça consiste à faire tout pour amener dans notre société le royaume de Dieu. Dans les sphères politiques, dans les sphères décisionnaires, économique, dans toutes les sphères de gouvernance de la société, certains espèrent amener le royaume par des démarches semblables. Mais les prophéties, très clairement, réfutent de telles démarches. C'est par son retour glorieux que Jésus établira son règne. Et non par des démarches politico-philosophico-religioso, je ne sais pas encore comment, vous voyez, ce n'est pas comme cela. Les événements, les douleurs, les conséquences amères que Dieu annonce, frères et sœurs, s'accompliront. Désolé, 2024 n'ira pas mieux que 2023. Malgré les bons vœux du 1er janvier, non, les prophéties s'accompliront. Mais, dit Dieu, ton privilège, Baruch, ton privilège, ce sera ta vie. Ce sera ta vie. Tu auras ta vie comme butin. Et j'aimerais terminer ce message, frères et sœurs, en mettant l'accent sur le caractère fondamental, l'importance primordial que nous soyons des chrétiens vivants, que notre foi soit vivante en un Dieu vivant. Alléluia. Jésus l'a dit, nous l'avons lu, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même en abondance, que Dieu soit béni. Ce sera ma partie finale de ce message, être habité de la vie du Seigneur, qui lui-même se présente à nous comme étant le Dieu vivant. Jésus dit, voici, je vis, et vous, vivrez aussi. Gloire à Dieu. Il est le vivant. Pendant la période que j'appelle le ministère des 40 jours, Jésus va donner d'innombrables preuves convaincantes qu'il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant, gloire à Dieu, mais parce qu'il est vivant, nous-mêmes, nous sommes appelés à vivre de sa vie. À vivre, hein, gloire à Dieu. Vous vivrez aussi. L'apôtre Paul disait, Christ est ma vie. Alléluia. Il disait aussi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce n'est pas le seul privilège de Paul, c'est aussi le tien. C'est le mien. Le Christ qui vivait en Paul vit en toi, et parce qu'il vit en toi, tu vis toi-même. Alléluia. Et au milieu d'une société qui s'écroule avec les ténèbres épaisses qui s'y installent, Dieu a installé un peuple qui est son peuple, et son peuple est composé d'hommes et de femmes qui sont vivants. Et quand je parle de vie, bien sûr, parce qu'il y a, la vie, il y a la vie biologique, il y a la vie psychique, ce sont les émotions, mais là, c'est la vie spirituelle, la vie de Dieu, c'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. La vie éternelle, frères et sœurs, ce n'est pas seulement une vie qui ne finit jamais, oui, mais c'est une qualité de vie, c'est la vie de Dieu qui m'habite. Je vis de la vie de Dieu. Est-ce que c'est d'accord? Amen. Nous avons ce privilège d'être habités de la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu, c'est la vie éternelle qui ne finit jamais. C'est une vie de qualité parfaite. C'est une vie de performance aussi. La vie de Dieu en toi va te donner la capacité de performance. Amen. Moi, quand je vois un homme, parce qu'il est habité de la vie d'en haut, marcher 40 jours et 40 nuits, je suis devant une performance qui m'interpelle. Oui ou non? Aux Jeux Olympiques, il était imbattable. Et ce ne sont pas ces énergies naturelles qui ont permis cette performance. C'est parce que la vie de Dieu était en lui. Il marche 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire et sans se plaindre de crampes ou de problèmes articulaires. Il avance, il avance, il avance. Ses ressources sont d'en haut. Et ces énergies se renouvellent au fur et à mesure. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Il se renouvelle pendant la marche. Gloire à Dieu. Je disais tout à l'heure à notre frère Robert qu'hier j'ai eu l'occasion de revoir M. Bazin à la pastorale de la région PACA Corse. Et c'est vrai que physiquement, il porte bien son âge. Je l'ai trouvé bien diminué physiquement, mais comme je le disais tout à l'heure à notre frère, jusqu'au moment où il s'est levé pour prendre la parole. Et là, mes amis, on s'est aperçu que l'homme intérieur, lui, il était habité d'une vie avec haute performance. Parce que, mes amis, il nous a tenu un discours d'une clarté, d'une limpidité, d'une cohérence et d'une force de persuasion qui ont été la démonstration que si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 102 ans, c'est ça? 102 ans. Et mes amis, ça a été un témoignage remarquable. Alors, nous sommes assujettis au même principe. Notre homme extérieur se détruit. Mais la Bible nous dit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Tu avais raison, Jean-Philippe, de dire qu'en partant de la réunion de prière, tu allais repartir renouvelé. Alléluia. L'homme intérieur se renouvelle. Et c'est ça la vie de Dieu. Amen. Il est beau ce papy de 85 ans, appelé Caleb. Lorsque Josué prépare, l'appropriation du pays promis. Caleb vient. Et il ne vient pas en se tenant les reins, il vient. Et il dit à Josué, tu te souviens de la promesse qui m'a été faite il y a 40 ans en arrière, j'en ai 85 aujourd'hui. Et l'Éternel m'a fait vivre, va dire Caleb. L'Éternel m'a fait vivre. Pas végéter, pas survivre, mais il m'a fait vivre. J'ai autant de vigueur à 85 ans que j'en avais à 40. Et je suis prêt. Donne-moi la colline, là, qui est infestée des Anakim. Vous savez, ce que Caleb demande, c'était une région inhospitalière, d'accès difficile, habitée de géants. C'était pas un circuit touristique, là-bas, ouais. Mais parce que l'Éternel l'a fait vivre, ça, c'est un témoignage du renouvellement intérieur de cet homme. Sa foi n'a pas pris une ride, gloire à Dieu, il n'a pas eu de rhumatisme spirituel. Il était toujours autant animé d'esprit volontaire pour la gloire du Seigneur. Eh bien, c'est lui qui a eu raison, puisque il a obtenu sa demande, s'est exaucée, gloire à Dieu. Ils ont pris d'assaut, les géants ont fui pour les quelques rescapés, les autres ont mal fini, et il a obtenu l'exaucement, que le Seigneur soit béni. L'Éternel m'a fait vivre. Et ce grand-père, malade de la maladie dont il devait mourir, nous dit la Bible. Le jeune roi Joas lui rend visite et il le salue en disant « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». C'est une citation nostalgique qui lui rappelait sa jeunesse, etc. Et il y avait là le prophète Élisée, vieux, malade et près de mourir. Ça, c'était l'aspect physique, l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur respirait la vitalité du Seigneur. Et sans entrer dans les jérémiades du roi nostalgique, Élisée se lève, il lui dit « Prends ton arc, mets une flèche, ouvre la fenêtre, tire !» C'est une flèche de délivrance. Oh là là, il est en forme, hein ? Il est vivant. Moi, je suis venu, dit Jésus, pour que mes brebis, elles aient la vie. Et qu'elle est même en abondance. Dieu te veut vivant. Oh là là. Faites-moi un amen vivant. Dieu te veut vivant, abondamment vivant. Rempli de sa vie. Alléluia. Avec des cantiques vivants, des prières vivantes, des témoignages vivants, des louanges vivantes, afin que tout ce que tu es puisse rayonner de cette réalité intérieure qui t'habite, la vie de celui qui lui-même a dit « Je vis et vous vivrez aussi ». Et de même que la vie de Dieu chez ces hommes faillibles leur a permis des performances remarquables, ben nous pouvons nous aussi accomplir des performances pour la gloire de Jésus par la vie qui nous habite. Amen. Des performances dans le domaine de la foi, dans le domaine spirituel. Je prie de tout mon cœur le Seigneur pour que tu changes de langage et que chaque fois que tu es tenté de dire « je n'y arriverai pas », que tu puisses changer de discours et que tu puisses rappeler à ton âme que tu es habité de la vie du Seigneur. Elle va te donner des capacités de performance. Tu vas y arriver, pas par ton énergie et un entêtement naturel, mais tu vas y arriver par les performances que te communiquera la vie du Seigneur. Alléluia ! Que le Seigneur nous encourage, comme il